Parce que moi, si j'ai été trop loin. Pardon.
Monsieur Guillaumeau, nous vous remercions d'accepter de participer à cet atelier de Pluriact qui concerne donc, vous l'avez compris, les personnes en situation de précarité. Nous avons souhaité avoir le témoignage d'un médecin généraliste, en particulier en milieu rural. Et donc c'est de votre expérience que nous souhaitons que vous nous parliez. Quelle connaissance, comment se présentait à vous la question de la précarité en milieu rural ?
Vaste question, je ne sais pas comment elle se présentait, c'est pas... les gens ne viennent jamais nous voir en disant « vous savez, je suis dans une situation précaire hein. ». En général, les gens ils viennent nous voir pour un problème, une pathologie, et... Bon, et c'est là, c'est à nous d'essayer de découvrir si... comment est-ce qu'ils gèrent leur situation. J'ai vu des gens qui étaient partis, qui apparemment étaient, vu de l'extérieur, étaient dans une grande précarité. Je pense en particulier à un patient qui est aujourd'hui décédé, qui vivait dans une maison qu'il avait construite lui-même. Je ne sais pas comment il avait fait pour avoir le terrain, mais enfin, grosso modo, il s'était construit une cabane. Et il vivait là. Alors, au fil des années, la cabane s'était effectivement améliorée. Il y avait une porte, plusieurs pièces comme ça. Mais on sentait vraiment que c'était quelque chose de parfaitement artisanal, dans l'illégalité la plus complète, parce que effectivement, une fois que la cabane a été faite avec le toit, on pouvait pas trop le mettre dehors parce que c'était difficile, mais il n'avait jamais eu ni permis de construire ni quoi que ce soit. Il avait fini par avoir l'électricité, je sais plus comment, mais ça avait été très très long et très difficile. Mais en même temps, oui, c'était sa vie, il considérait que c'était normal, il vivait comme ça. Donc c'est vrai que quand je venais, j'allais le voir, il avait développé des gros problèmes pathologiques, il avait développé un problème, un cancer ORL, donc il a fini par l'emporter. Je l'ai connu 2-3 fois comme ça, mais oui, il était en grande précarité, mais il ne venait pas me voir parce qu'il était précaire, il venait me voir parce qu'il avait
une certaine pathologie. Alors c'est parce qu'il n'en souffrait pas ou c'était par amour propre ?
Je ne sais pas, il considérait que c'était un petit peu sa façon à lui d'être indépendant, d'être rebelle, de ne pas être... si la société l'enquiquinait, lui, il était résolument à part, avec l'idée qu'il pouvait en tirer peut-être de temps en temps, il en avait besoin quand même, mais il n'avait pas envie qu'on l'ennuie. Il avait ce désir d'indépendance, cette certaine... il était sans doute un petit peu fier de ce qu'il était, mais il avait vécu comme ça pendant des années. Je crois qu'il avait... Il va avoir des enfants, mais qui ne voyaient pas, outre très épisodiquement, mais dans une situation tout à fait particulière. Mais c'était... Effectivement, on le connaît, c'était une expérience intéressante, mais bon... On n'était pas intime, mais c'est vrai que c'était presque un plaisir d'y aller, parce que il y avait chaque fois des choses à découvrir chez lui. Alors là, on était dans l'échange, mais c'est effectivement à nos yeux, c'était effectivement quelqu'un qui était dans une grande précarité, puis finalement il n'en vivait pas si mal. Sa souffrance n'était pas dans cette précarité, la souffrance était dans peut-être un certain nombre de conséquences qu'il y avait, mais enfin bon, c'est vrai que c'était comme ça. Alors, je cherche d'autres exemples de patients où j'ai pu avoir ce sentiment. Oui, des gens qui, je pensais, effectivement, une famille qui était arrivée de pas loin. Alors, c'était pas très, très. C'était assez. C'était peu avant que je prenne ma retraite. Donc. Mais une famille qui s'est installée avec il y avait plusieurs enfants, il y avait au moins 4 ou 5 enfants, ils étaient donc Ils avaient trouvé une location sur Saint-Dizier, avec différentes pathologies, des soucis pour contacter le kiné, parce qu'il y avait toujours soit la bronchiolite ou l'asthme de certains, et puis des soucis de travail, parce qu'effectivement, tous on ne travaillait pas, donc ils ont des besoins d'aide sociale, des besoins de... un petit peu de toutes sortes. Bien sûr, de mon point de vue, il y avait la CMU, qui étant quand même un grand bienfait, je trouve, parce que ça permet effectivement à ces gens qui ont des gros soucis financiers et peu de moyens, ça leur permet effectivement d'avoir accès aux soins, d'une part, mais aussi d'avoir accès à... En ayant accès aux soins, c'est une façon de s'inscrire dans une certaine normalité. Je ne sais pas si je suis, suis bien clair. Il y a dans le monde médical un certain nombre de gens qui disent « Pouf, ces gens qui sont à la CMU, ils en profitent, comme ça. » Bon, je trouve que c'est particulièrement injuste de dire que les gens qui sont à la CMU, c'est pour profiter d'un système. Et en plus, lorsque on est dans des soucis financiers importants, que partout on a tendance à vous faire comprendre qu'on est une quantité négligeable, vôtre, eh bien, avec cette CMU, ils vont voir un médecin ou un professionnel de santé et ils y viennent parce qu'ils ont le droit d'être soignés, ils ont le droit. Et ils vont voir le médecin comme tout le monde. C'est une certaine... Alors, peut-être que certains peuvent donner aux professionnels qui ne feraient pas attention qu'ils abusent d'autres, mais quelque part aussi, c'est une manière de dialoguer, d'être en... Ils viennent parler de leur pathologie à quelqu'un qui est là pour les écouter. Et oui, c'est une certaine reconnaissance de leur humanité. Moi, j'avoue que je suis... je trouve très bien que cela existe.
Oui, oui, oui.
Parce que c'est une réponse. Je pense qu'il serait nécessaire de considérer que cette réponse va au-delà du simple accès aux soins. C'est aussi un accès à une certaine forme de reconnaissance.
Sociale, oui.
Sociale et humaine.
Ils rencontrent quelqu'un qui les écoute.
Ils rencontrent quelqu'un qui les écoute. Mais ils y vont, et puis comme ils ont la CMU, ils y vont parce qu'ils ont le droit, et finalement on fait avec eux comme on fait avec tout le monde. Moi, de ce point de vue-là, je trouve que c'était une grande avancée. Ils viennent, surtout que maintenant, avec la carte vitale, très souvent... Les gens qui ont une mutuelle, ils vont voir le médecin, ils voient la pharmacie. Avec le tiers payant, la question d'argent ne se pose pas. Et là, effectivement, ils y vont voir notre professionnel, un peu comme tout le monde, comme tout un chacun. Et c'est alors peut-être que ceux qui peuvent donner l'impression d'abuser, simplement, il y a certaines façons d'être un peu comme tout le monde de ce point de vue-là. Donc, je pense que ça, c'est...
Ça les situe donc dans une norme sociale. Est-ce que ils ne se présentent jamais dans la plainte, donc ?
Dans la plainte
Dans la plainte sociale, dans une plainte autre que médicale.
Vis-à-vis de moi en tant que médecin, peu, ou alors au bout d'un moment, c'est lorsqu'on a un peu plus fait connaissance, oui, ils vont m'expliquer des soucis qu'ils peuvent avoir, des problèmes d'administration, etc. Donc, on va en discuter, oui. Mais c'est.
Oui.
Effectivement. Alors ensuite, il faut moi, de mon côté, que j'appelle, voir avec les assistantes sociales comment on peut faire, voir avec les infirmières, avec le kiné, si on arrive toujours à s'arranger pour aider les gens au mieux. Moi, je considère le principal dans mon métier, c'est d'arriver à identifier la souffrance et d'essayer de la soulager, mais en même temps de ne pas en rajouter. Parce que c'est vrai que Ben oui, le soin, le médical, ça fait peur des fois. Hein. C'est-à-dire que quand sur le plan médico-technique, on va dire, la solution, ça semble être l'hospitalisation, parce que le plateau technique sera là pour... Mais c'est aussi introduire une certaine souffrance. Donc il faut faire toujours attention à ce que la souffrance qu'on introduite ne soit pas supérieure à celle que l'on veut soulager. C'est pas si évident que ça. Je sais pas que dire de plus.
Non, moi, c'est intéressant.
Là, tel que vous en parlez, ces personnes viennent vous rencontrer. Autrefois, il me semble-t-il, le médecin généraliste allait plus souvent au domicile. Il ne vous arrivait pas d'aller au domicile parce que là, peut-être que les difficultés de la vie quotidienne étaient plus sensibles.
Alors, j'ai peut-être dit qu'il venait. Pour moi, il venait, c'est-à-dire c'était... Je répondais à un appel. La plupart du temps, c'est moi qui allais chez eux, oui. Le patient dont j'ai parlé tout à l'heure qui vivait dans une cabane, il est peut-être venu à mon cabinet une fois, mais ça posait des problèmes de déplacement. C'était pratiquement toujours moi qui allais chez eux. Donc j'ai toujours été très très attaché à la visite à domicile. C'est vrai que c'est passé de mode dans les syndicats médicaux. On n'arrêtait pas de dire ouais, ben la visite, c'est du temps perdu. On n'a pas à la disposition tous les moyens qu'on a au cabinet pour être efficace. Mais en même temps, je trouve que ne plus faire de visite à domicile dans mon métier, ça devient dramatique, quoi. Il faut aller chez les gens, parce que Oui, c'est là où on voit comment ils vivent, on voit comment ils vivent, on voit comment les choses... comment ça se passe chez eux, comment... De quoi est fait leur quotidien, parce que nous on voit les gens un quart d'heure, une minute, une demi-heure... parfois plus, mais c'est vrai que c'est malgré tout qu'un petit moment de leur vie. Quand on va chez eux, on a la possibilité d'en deviner beaucoup plus. Et non, ça c'est... Oui, la visite à domicile, c'est quelque chose auquel j'étais toujours très très attaché, et qui est un moyen incontournable pour connaître un petit peu mieux les gens qu'on est censé peut aider.
Oui, on entre dans une intimité, dans une qui leur permet peut-être d'être plus familiers, d'être plus davantage exprimer leur situation et leurs difficultés.
Davantage l'exprimer, ou sinon peut-être leur corps déformant, en tout cas davantage ça la rend visible, c'est vrai que c'est...
Ouais.
C'est vrai qu'on se rend compte facilement quelle importance est attachée aux choses. Sans rentrer dans un jugement, mais c'est vrai que oui, on voit bien si... Je parlais tout à l'heure d'enfants avec des problèmes d'asthme ou de bronchite, mais c'est vrai que s'il y a un cendrier plein sur la table, on voit bien que ça va être difficile de dire aux gens, pour votre gamin, il faut plus fumer dans la maison. Ben, c'est vrai que c'est pas si évident que ça, c'est pas simple. C'est pas simple à dire sans donner l'impression d'émettre un jugement, mais en même temps, tout en essayant de convaincre, il y a des choses qu'il faudrait peut-être essayer de faire. Mais ça, on le voit si on y va. S'ils viennent chez nous... pour reprendre l'exemple du cendrier plein, mais c'est vrai que on ne se rendra pas compte de la même façon si le tabagisme est quelque chose d'important ou pas. Vous nous aviez évoqué tout à l'heure lors des précédents travaux là, sur l'alcoolisme, et c'est vrai qu'on voit bien mieux les choses quand on va chez les gens que quand simplement on les reçoit. L'alcoolisme, ce n'est pas uniquement une prise de sang qui va montrer des gamma GT élevés, c'est quand même... ça va beaucoup plus loin que ça. Et en plus, quand on va chez les gens, on voit aussi, s'il y a plusieurs membres de la famille qui sont là, on voit un petit peu mieux comment ils interagissent entre eux, comment ils interagissent entre eux chez eux, donc dans leur quotidien, ce qui est quand même, c'est sur des mines de renseignements. Mais c'est vous quand... Vous, en tant qu'analyste, vous n'aviez pas cette chance-là.
Non, j'ai pas. Encore que, il m'est arrivé d'aller dans des familles d'enfants qui étaient à l'IME. Mais c'était moins mon quotidien, évidemment. Vous qualifieriez, on parle beaucoup aujourd'hui, on parlait de précarité, aujourd'hui on parle de grande précarité. Qu'est-ce que c'est que la grande précarité pour vous ? À travers l'expérience que vous avez d'avoir.
Je ne saurais pas comment dire, là. C'est vrai que là. Peut-être que je. Alors, je ne sais pas quelle est la définition qu'en donnent ceux qui utilisent le mot, donc c'est vrai que c'est difficile. Il est évident que. Il peut y avoir toute une graduation, c'est vrai qu'entre le.
C'est vrai que le. Bon, c'est ambigu parce que. Aujourd'hui, on parle de plus en plus du fait que lorsque l'on a le SMIC, on n'a plus les moyens d'assumer une vie normale et qu'on commence à être dans une situation précaire. Alors on l'entend sur les ondes. Donc ça commencerait là, la précarité.
Oui, ça commence là, mais c'est vrai que... Mais on peut facilement imaginer que des gens qui ont des moyens qui sont un petit peu limités, qui se retrouvent tout d'un coup à faire face à une certaine catastrophe, ben c'est vrai que ça devient très vite dramatique. J'ai le souvenir d'autres patients où il y avait des problèmes d'alcool, il y avait des problèmes de dénutrition, il y avait des problèmes financiers. Il n'y avait pas de permis de conduire, mais il y avait une petite voiturette qui permet de se déplacer un petit peu. Et puis quand la voiturette tombe en panne, ben, on était déjà précaire, mais on le devient encore plus. Enfin, je veux dire qu'il y a les ennuis arrivent souvent en escadrille, comme je dis. Et on peut toujours imaginer pire. Hein.
Oui. Alors, ces personnes qui vivent ces situations-là, comme vous dites, ils sont dans une recherche d'échange, de solidarité entre eux.
De solidarité entre eux, j'ai pas fondamentalement l'impression. Ils sont souvent renfermés. Ils ont donc les dernières personnes à qui je pensais là qui est où on ne sait. Il y a des moments où on ne sait pas ce qui est vécu. Je pensais en particulier à un couple. Elle avait des gros problèmes, vraisemblablement de dénutrition, d'alcoolisation. Est-ce qu'il y avait on peut imaginer des violences conjugales aussi. Mais malgré tout, si elle était hospitalisée, elle demandait qu'une chose, c'était de rentrer chez elle, en sachant que c'était pas possible parce qu'elle pouvait pas marcher, il fallait un fauteuil roulant et il n'y avait pas deux pièces qui étaient au même niveau. Donc, ça voulait dire qu'elle allait passer toute la journée sur une chaise sans bouger, mais avec vraisemblablement une violence au moins verbale dans le... Peut-être pas tout le temps, mais des fois, puis si en plus... Un peu d'alcool qui va libérer les inhibitions, ben, on ne sait pas ce que ça va donner. Mais... Et là, on est dans une situation où, là en l'occurrence, je ne sais pas ce que c'est devenu depuis. Après, je suis parti en retraite, mais là, on était un petit peu dans le désespoir. C'est-à-dire que l'impression d'être dans une. Dans une situation qui ne fait que s'empirer, avec de moins en moins de force et de moins en moins de volonté de récupérer des forces, parce que c'est pas simple. Si on a une fracture du col du fémur, c'est simple, effectivement, on sait l'opérer, c'est très bien, mais ensuite, il faut de la rééducation, si on a déjà pas beaucoup de force. Et en plus pas beaucoup de volonté d'en faire, et en plus pas beaucoup de gens qui vont vous aider à le faire. Quand le kiné vient, ben, on ne va pas lui ouvrir la porte parce que ce n'est pas le moment, qu'on n'a pas envie de le voir ce jour-là. À force de ne pas bouger, on perd des forces, et à force de perdre des forces, on perd le moyen de récupérer des forces. C'était... Et... Oui, des situations comme ça. Alors, oui, la grande précarité, c'est quand on est dans une spirale infernale dont on ne sait pas comment on va pouvoir... Les gens ne donnent pas l'impression de vouloir s'en sortir parce que l'effort pour s'en sortir, quelles que soient les aides qu'on apporte, il paraîtra trop grand. C'est-à-dire qu'il y a un moment où on ne peut pas rééduquer musculairement une personne à sa place. Donc, si...
Il y aurait un renoncement à un moment.
Il y a un... C'est peut-être un renoncement, mais c'est jamais manifesté de cette façon-là. C'est jamais exprimé comme étant un renoncement. Tant pis. C'est plus arrêtez, foutez-moi la paix.
Ouais.
C'est-à-dire que là, on a envie d'aider les gens à s'en sortir, mais vous kikinez, foutez-moi la paix, quoi. Je ne veux pas vous voir, j'ai pas envie, et c'est ma liberté de ne pas avoir envie, donc vous emmerdez. C'est pas un renoncement de suicidaire, où on s'abandonne dans une précarité. C'est effectivement, en tout cas, ça peut être ressenti en face comme étant la volonté qu'on nous fiche la paix. Et alors effectivement, vu de l'extérieur, on sent que ça risque d'être une évolution dramatique. Mais en même temps, on a l'impression que la personne nous interdit d'agir. Et c'est là ce que je disais tout à l'heure sur comment essayer de soulager une souffrance sans en rajouter une autre. C'est vrai qu'on pourrait dire, bah, écoutez, on vous prend, on vous met ensemble des rééducations et puis vous pillez. Et comme ça, bah, effectivement, objectivement, sur un plan de la pathologie, c'est peut-être ce qu'il faudrait faire, mais quand on est face à un refus, si jamais ça ne marche pas comme il faut, ben on en sera responsable à la limite d'une aggravation en voulant bien faire. Et c'est vrai qu'arriver à trouver le déclic pour toucher la personne, pour arriver à ce qu'elle sente qu'on est en empathie suffisamment pour l'aider à trouver des ressources qui lui permettront de se soigner elle-même, enfin de faire la part d'eux-mêmes qui est nécessaire pour les soigner, donc c'est pas pour se soigner, c'est pas simple. Et ça, c'est beaucoup plus vrai chez les gens qui sont dans une grande précarité.
Vous avez été élu. J'en profite pour vous demander, de ce point de vue-là, dans votre commune, est-ce qu'il y avait les Restos du Cœur, est-ce qu'il y avait des associations qui permettaient de faire du lien entre ces personnes?
Il y avait un CCAS qui s'occupait effectivement d'aider un certain nombre de personnes en difficulté. J'avoue que j'ai pas le souvenir d'action de ma part particulièrement dans ce cadre-là, en dehors du soutien pour les cantines, oui. Pour les... Et de remplir des dossiers de demande d'aide sociale, etc. Donc, j'ai pas de souvenir précis de ce D'accord. point de vue-là. Dans ce cadre-là, si ce n'est effectivement essayer d'aider un certain nombre de personnes à l'époque où il y avait les emplois aidés. Donc c'est vrai que, oui. Ben, effectivement, on essayait de à la fois de les utiliser pour le bien de la commune et puis d'y rapporter une certaine aide pour se retrouver un peu plus dans l'emploi, dans le travail, quand les gens étaient un petit peu perdus. Oui, mais c'est jamais très simple. Je sais pas quoi vous dire de plus.
Bon, mais écoutez, c'est très bien. On perçoit très bien de quelle place vous parlez, l'expérience que vous avez de ces situations-là. Et donc... vous aurez l'occasion de rebondir sur ce qui se dira lorsqu'on fera cette réunion qui réunira donc 8 professionnels à peu près et 3 ou 4 personnes
Oui, vous,
qui vivent cette situation.
Vous voulez inviter un certain nombre de personnes qui seraient en situation de précarité pour qu'elles parlent de leurs problèmes ou...
Voilà.
Oui.
Merci, monsieur Guillaumeau. À bientôt.
Oui, à bientôt.